Chapitre 5. Deux années après la visite de M. d'Hautefort, années heureuses et mondaines, Frédéric remarqua avec inquiétude l'air préoccupé de son mari. « Qu'as-tu, Fabien? De grands soucis? Dis-les-moi. » « Une décision à prendre. Je ne sais à quoi me résoudre. »«
Quelle décision ?»«
Une grosse affaire m'est proposée par Gauvier. » »«
Alors récuse-toi. » Gauvier, je te l'affirme, est ton mauvais génie.
Où prends-tu cela?
Dans mon instinct, dans mes observations quand je le reçois.
Fabien la regarda avec amour. Il savait que toutes les pensées de la jeune femme convergeaient vers lui, que son sens droit l'avait parfois servi, lui, l'homme expérimenté, mais plus il éprouvait d'amour pour elle et ses enfants, plus il souhaitait une énorme fortune. L'affaire proposée par Gauvier non seulement offrait des risques, mais était douteuse au point de vue probité, car les risques devaient être cachés aux gens trop confiants qui, en cas d'échec, seraient ruinés. Si elle échouait, M. Dauzac perdait une partie de son avoir. Si elle réussissait, il doublait presque sa fortune.
« Tu hésites ?» reprit Frédéric.
« Donc un mauvais côté de l'affaire t'inquiète. »
Si je réussis, notre fortune est doublée d'un seul coup. Si l'affaire échoue, je perds une grosse somme engagée, mais je la rattraperai plus tard.
Ne serait-ce pas plus sage d'éviter l'angoisse de l'incertitude, ou même de simples ennuis? Demeurons comme nous sommes, riches sans exagération. Fabien ne chercha pas à discuter. S'il exprimait la raison véritable de son hésitation, il connaissait à l'avance la réponse de sa femme.
« Je réfléchirai encore avant de me lancer, » dit-il gaiement.
Mais Frédéric, très fine, pensa toute la journée à l'attitude de Fabien et conclut, après réflexion, qu'il dissimulait la cause réelle de ses incertitudes. Elle le savait très audacieux et le succès avait jusqu'alors augmenté son audace. Il possédait désormais une belle fortune, l'avenir de ses enfants était assuré, autant qu'un avenir peut être assuré. Alors pourquoi tant de richesses? Pourquoi, alors qu'une crainte évidente retenait encore le spéculateur? Le surlendemain, Gauvier déjeunait chez les Dauzac. Après le repas, il causa avec Fabien dans un coin du salon, pendant que Frédéric travaillait à une tapisserie, dans un tel silence qu'ils oubliaient sa présence ou la croyaient partie. Il parlait à voix basse, cependant elle entendit quelques phrases qui la jetèrent dans le plus grand émoi.
« Vous direz ce que vous voudrez, mon cher, il reste l'ennui, sinon le remords, d'avoir trompé, car nous dissimulons les risques. »«
Tromper qui? D'autres agiront à notre place. L'affaire peut, doit être magnifique. Si nous nous dérobons, elle sera prise par V, je le sais. Vos scrupules n'ont aucune raison d'exister. »«
Par V, dites-vous?
Oui, par ce hableur qu'on trouve trop souvent sur son chemin. »
Hableur, oui, mais très fort et en somme très considéré.
M. Dauzac passa la main sur son front d'un air soucieux. Il n'était pas malhonnête. Bien que sa délicatesse fût émoussée, il n'avait pas à se reprocher une action en désaccord positif avec la probité. Mais dans l'affaire présente, il existait un sérieux aléa dont on ne parlerait pas aux intéressés. Toutefois, ébloui par le succès très probable, l'idée qu'un autre prendrait l'affaire en main acheva de le décider. Il reconduisit Gauvier à la porte, l'un et l'autre oubliant Madame Dauzac. Il rentrait dans le salon et le traversait pour aller dans son bureau, quand Frédéric se leva et lui saisit le bras.
« Quoi, que veux-tu, Frédéric? Tu m'as presque fait peur et tu es toute pâle. »
« J'ai entendu plusieurs mots de votre conversation et deviné le reste. » « Fabien, abandonne ce projet. »«
Pourquoi ?»«
Parce qu'il n'est pas honnête. »«
Tu me crois malhonnête ?»«
Non, non, mais aveuglé. Grave faux pas de s'enrichir quand il y a des doutes sur la sécurité des autres. »« Renonce, Fabien, je t'en supplie. Un argent mal acquis, quel poids ! Et à quoi penses-tu ?»«
Je pense d'abord qu'il est triste d'être soupçonné par sa femme. » Je pense que ces gens, soi-disant ruinés, auxquels tu fais allusion, n'ont qu'à s'informer avant de placer leurs fonds dans l'affaire. Je pense aussi à préparer un avenir plus soyeux à nos mignons présents et futurs, ajouta-t-il en souriant. J'hésitais stupidement, mon parti est pris.
Tu as été décidée lorsque Gauvier a déclaré que V le remplacerait.
Elle l'entourait de ses bras affectueusement. Il se dégagea et la tint devant lui par les mains.
« Que signifie ta défiance? Comment peux-tu douter de ton mari ?»«
Je ne doute pas de ta délicatesse puisque j'y fais appel.
Je t'en prie, renonce, renonce. Tu entrerais dans un chemin tortueux. Préoccupé de réussir, tu ne le vois pas, mais moi, je vois. »
Vraiment, les femmes ont le talent de dramatiser les situations les plus simples.
Je ne dramatise pas, je sais. Je ne suis pas la seule à me défier de Gauvier.
Ah, tu as entendu parler de Gauvier? Moi également. Sa froideur ne le rend pas sympathique et le succès, ma pauvre enfant, attire toujours des jalousies. Sois assurée que les mauvaises langues ne m'épargnent pas.
Fabien, écoute ma conscience.
Il embrassa et répondit d'un ton ferme. Je suis décidé, n'en parlons plus. À peine sorti, il s'étonna de l'insistance de sa femme, ordinairement très réservée dans ses questions sur ses projets financiers. Sans expérience, elle n'hésitait pas à se défier, à condamner.
Une sensitive, un souffle l'émeut. Après la réussite, elle jugera autrement.
Mais il n'était pas convaincu. L'affaire menée avec habileté, avec beaucoup de hardiesse, eut un plein succès. Fabien, triomphant, dit à sa femme « À présent, si je le voulais, je pourrais me reposer sur mes lauriers. »«
Eh bien, Fabien, repose-toi en effet. »«
Impossible, j'aime trop ma carrière. »«
Qu'avons-nous besoin de tant d'argent ?»«
Tu me blesses en affectant de ne voir dans mes travaux que la question d'argent. » « Mes facultés doivent vivre. Elles ne peuvent pas sans mon travail. »
Frédéric reconnaissait la justesse de cette dernière remarque. Avec un peu de timidité, elle demanda « Dans cette affaire, si satisfaisante pour toi et pour Gauvier, personne n'a souffert ?»«
Que veux-tu dire ?»«
Je demande si personne n'a été lésé ou ruiné. » »«
Personne, chérie. » »«
Et si elle avait échoué ?»
C'eût été différent, j'en conviens, pour nous et pour les autres.
L'air de Frédéric exprimait si clairement une pensée désapprobatrice que Fabien s'irrita.
Tant de travail, de tracas, si peu de soutien et de reconnaissance!
La plainte émut profondément Frédéric, qui s'écria presque en pleurant.
Ne dis pas cela, je t'aime tant! Je te soutiens en ne dissimulant pas mes pensées, en essayant d'enrayer ton ardeur inutile. Et puis, je me défierai toujours de Gauvier. Toujours, je regretterai ton alliance avec lui.
Défiance injustifiée, ma Frédéric.
Le sujet ne fut plus abordé, mais indirectement, le gros succès était rappelé par les cadeaux de Fabien à sa femme.
Il est juste, disait-il, que tu profites de ma réussite.
Il lui donna une 6 chevaux qu'elle avait admirée.
Tu vois que l'argent a du bon, beaucoup de bon.
Personne n'en doute. Pour ma part, je n'en ai jamais douté. Elle conduisit bientôt avec assez de sécurité pour que Fabien la laissât circuler sans le chauffeur. Quand elle arriva seule rue Cassini, avec sa voiture dont elle n'avait pas encore parlé à ses parents, il était assez tard et son père rentrait du bureau, vint sur les instances de sa fille regarder l'élégante 6 chevaux.
Elle est jolie, n'est-ce pas?
Dit-elle en passant la main sur le capot avec le même plaisir que si elle caressait un être vivant.
Oui, très jolie, mais ton mari avait déjà la sienne.
Impossible de m'en servir souvent. Il parlait de me donner une plus grande voiture et de prendre un second chauffeur. Moi, j'ai préféré celle-ci que je conduis moi-même et facilement. « Je sors quand je veux, c'est la liberté. Fabien a profité d'un nouveau succès pour combler mes désirs. »«
Très bien, » dit Laurent un peu tristement.
En rentrant chez lui avec sa fille, il se répétait le lieu commun que, mariés, les enfants vous échappent, que les plus raisonnables, comme l'avait été Frédéric, sont métamorphosés par de nouvelles idées et de nouveaux goûts. Alors, à quoi bon protester ? La jeune femme devinait les sous-entendus d'un silence qui la froissait et diminuait son plaisir. Incapable de cacher ses sentiments, elle s'écria « N'est-il pas singulier que ce soit la richesse qui mette je ne sais quel trouble entre nous ?» Les braves gens se regardèrent avec consternation. « Du trouble ? Du trouble entre nous ? Où vois-tu ce trouble ?» lui dit doucement sa mère. « Je devine, à l'air de papa, ce qu'il pense, ce qu'il blâme. Et dernièrement, Fabien a réalisé des gains énormes. » « Je sais. Que savez-vous, cher père? Dites-le-moi, je vous en prie. » « Peu de choses. Cependant, j'ai entendu parler vaguement de la grosse affaire. » « Que disait-on? Quels propos? Était-il désagréable? Ne me cachez rien. » « Je n'ai rien à cacher. Ton mari est connu pour un audacieux. Dans la circonstance, il a été beaucoup. Son audace était un peu critiquée. Par des gens compétents ?» Par des gens de bon sens, simplement. Il a réussi, répliqua Frédéric, qui tremblait d'entendre un blâme plus accentué. J'en profite. Naturellement, mon enfant, répondit Laurent avec calme. Et nous sommes trois fois heureux de te voir si satisfaite. Cet entretien renouvela la sourde inquiétude de Madame d'Auzac. Pourquoi critiquait-on un homme qui réussissait ? Elle avait assez d'expérience pour s'étonner que le succès n'écartât pas les critiques. Mais après tout, les critiques ne s'adressaient qu'aux tendances trop audacieuses de Fabien et n'attaquaient pas son honorabilité. Elle savait qu'on vantait bien haut l'habileté des deux associés, leur intelligence, leur flair, et se demandait pourquoi son père paraissait attristé en parlant de choses qu'il connaissait mal. Elle n'osait plus s'apesantir sur l'inquiétude causée par le mot entendu dans la conversation qui avait précédé la décision de Fabien. Des créanciers seraient ruinés, ou à peu près. Enfin, rien de funeste n'était arrivé. Les créanciers étaient remboursés avec un profit très appréciable et Fabien, ayant d'autres projets en vue, songeait déjà à des gains nouveaux. « Vois-tu, disait-il, l'argent est une telle puissance !» Puissance malsaine, je crois, si on l'exagère. Naïve. Frédéric était un type de femme d'une droiture innée et dont tous les instincts sont tournés vers le bien. Elle se reprochait presque amèrement le doute qui altérait sa confiance envers son mari. Elle l'eût chassé, ce doute, sans un article qui lui tomba par hasard sous les yeux. Jamais elle ne lisait les revues financières que recevait Fabien. Mais en venant chercher des journaux pour les brûler, elle aperçut sur une page le nom de d'Auzac. On rendait compte de l'affaire avec acrimonie pour terminer par une phrase accusatrice. Cette belle spéculation hardie, très bien menée, a donc réussi. Il en faut louer les habiles spéculateurs, mais en cas d'insuccès, plus d'un pauvre diable confiant eût pâti, et nous sommes autorisés à croire que les principaux intéressés connaissaient les risques que couraient les autres. Nous qualifions de confiant celui qui, sur de perfides conseils, donne son argent pour lancer une affaire. Grâce à Dieu, tout s'est bien passé. Frédéric demeura longtemps figé devant ces lignes venimeuses, si longtemps que son mari la surprit dans la même attitude. « Qu'as-tu ? » « Rien. » Il saisit le journal, regarda la page et haussa les épaules. « Quoi ? Te laisses-tu prendre à tant d'imbécilité ? » Je connais le lanceur de ce venin, c'est V qui, s'il avait pu, eût pris pour lui la spéculation. Alors, il parle de gens trop confiants qui auraient pâti sans votre réussite. Toi-même, ne disais-tu pas à Gauvier ? Gauvier m'avait rassuré, interrompit Fabien. Et V, que sait-il ? Nous aussi aurions beaucoup perdu, mais notre actif restait suffisant pour couvrir nos dettes. Il mentait, car à tout prix, il voulait rassurer sa femme. « Je crois, dit-elle résolument, que de toute façon, c'était un tort de risquer l'argent de ces gens confiants. « Tu vois bien qu'il n'en est rien, dit-il impatienté. « Tu es entêté, Frédéric, je ne m'en doutais pas. » Elle lui jeta les bras autour du cou. « Je veux que tu restes sur le piédestal où je t'ai toujours vu. » Il se calma instantanément. « Va pour le piédestal, » dit-il en riant. Depuis, Frédéric évita la moindre allusion, mais au fond, sa confiance était très ébranlée, bien qu'elle s'efforçât de douter du doute lui-même. Fabien, qui éprouvait le besoin d'une détente, décida de partir pour l'Italie, et M. d'Hautefort fut bien étonné de voir les Dauzac sonner à sa porte. « Quoi, vous avez pu échapper à l'engrenage, Fabien ?»« Pour quelques semaines, et ma femme désirait s'arrêter à Nice. Nous ne pouvions pas passer si près de vous sans vous serrer la main. » Gerbert les reçut avec une cordialité qui dissipa le léger malaise de Fabien. La villa, entourée d'un petit jardin, au pied d'une roche couverte de plantes variées, était jolie et confortable. Des goûts studieux se voyaient partout et Frédéric entrait dans une atmosphère qui la séduisit, tandis que Fabien, au bout d'une heure, se déroba en allant converser avec un ancien homme d'affaires installé à Beaulieu. « Il m'a rendu des services, alors excusez-moi. »« Allez, mon cher, allez. Pendant votre absence, je me transforme en cicérone de Madame Dauzac. » Il descendit avec elle sur la petite plage. Frédéric, charmé par le calme qui la sortait si complètement de sa vie habituelle, habitait en imagination ce pays idéal. « J'aimerais tant cette existence tranquille !» disait-elle à M. d'Hautefort. « Vous ne savez pas si vous aimeriez. Vos habitudes vivantes, variées, jurent avec ce cadre. »« Cadre exquis ! La vie serait alors uniquement dans mes affections. Fabien, mes enfants, mes parents. Plus de tourbillons, plus d'affaires angoissantes. » Elle se reprit vivement. « Comprenez, plus d'affaires ennuyeuses. Et alors, le repos pour mon mari que je trouve fatigué. » Sa fatigue augmenterait dans l'inaction. Il en tomberait malade. Vos enfants sont avec monsieur et madame Loral ? Naturellement. Mes parents, pendant notre voyage, se sont installés dans notre propriété, car nous avons une propriété à 1 heure de Paris. Les enfants sont bien gardés. Pauvres petits, je ne les avais jamais quittés. Je voudrais être rentré chez moi. Bah ! Ne troublez pas votre plaisir. Jouissez tranquillement de ces quelques semaines qui reposeront Fabien. Se reposer. Voyez, il nous a laissés pour voir un correspondant. Il a des correspondants partout. Le ton s'imprégnait d'une certaine amertume, et Gerbert, qui ne voulait recevoir aucune confidence, lui fit admirer les feux du soleil sur la mer, les villas qui, bâties au pied de la montagne, enfouies dans la verdure, ressemblaient à des jouets d'enfants, pendant que l'extrémité des jardins fleuris était caressée par les vagues dont la crête blanche se brisait doucement sur le roc. « Oui, disait-elle rêveusement, c'est extraordinairement joli, du moins extraordinaire pour moi qui ai presque toujours vécu à Paris. Vous suivrez une route charmante en allant à Rome. Vous me feriez plaisir en m'envoyant vos impressions. » « J'aime cette merveilleuse Italie et je comprends que Fabien veuille vous la faire connaître. »« Vous écrire mes impressions, mais vous me jugerez stupide, car certainement je ne verrai rien comme vous voyez vous-même. L'art est lettre morte pour moi. »« Pas tout à fait, si j'en juge d'après vos enthousiasmes, en admirant à la scène nos chefs-d'œuvre classiques ou autres. »« Est-ce le même terrain ?» L'expression, en langage magnifique, les beaux sentiments, ou, avec esprit, de jolies pensées, est une chose trop tangible pour que je n'en sois pas ému. Toute belle expression de l'art en est là. Mais envoyez-moi des vues de notre ordre. Croyez qu'elles intéressent mon amitié. Son amitié, pensa Frédéric, n'est-ce que de l'amitié ? Bah, ayons l'air de le croire fermement. Nous verrons. Mon amour-propre sera en jeu, alors. Alors vous le mettrez sous vos pieds, chose rationnelle avec un vieil ami. Je n'en sais rien, mais Irène de Paulin m'aidera à comprendre. Elle se réjouit, m'écrit-elle, de revoir, avec une ignorante de mon espèce, ce qu'elle connaît de Rome. Elle ne vous tient pas pour une ignorante, j'en suis sûre. Votre modestie seule traduit sa pensée. « Je le crois, dit Frédéric en riant, car elle est polie. » Rentrée chez M. d'Hautefort, elle fureta dans les livres, dont la plupart lui étaient inconnus, et, rejointe par son mari, partagea une impression que Fabien résuma en quelques mots. « Les romans sont anciens. Vous avez modifié votre bibliothèque, Gerbert. Elle n'est plus moderne. » Elle est moderne en livres d'histoire, de voyage, de philosophie, très peu en œuvre d'imagination. J'ai vieilli et me sens de notre temps.
Quel temps ? Demanda curieusement Frédéric.
Le temps où la bonté, les sentiments généreux ou délicats, le raffinement dans le bien moral n'étaient pas mis au rang de choses conventionnelles, niaises ou artificielles, pour être remplacés par le déprimant, la brutalité, les mauvais instincts et une psychologie parfois bien étrange.
Quel jugement sévère ! S'écria Fabien. Nous avons des romanciers de talent.
En effet, vous avez vieilli, Gerbert.
Mais Frédéric, en réfléchissant, jugea autrement.
Dans sa finesse, elle pensait, à tort ou à raison, que vivre seul avec une bonne nature qui met une barrière entre soi et des réalités brutales, ce n'est pas vieillir, c'est conserver un esprit assez jeune pour croire au bien, un cœur assez chaud pour se dévouer.
Qu'importe ma vieillesse supposée, dit M. d'Hautefort gaiement, elle doit en tout cas avoir des privilèges. Vous permettez, Fabien, que Mme d'Auzac m'envoie des nouvelles du voyage ? Vous détestez écrire des lettres, je ne puis compter sur vous.
Vous avez raison, Frédéric me remplacera, elle l'a fait plus d'une fois quand vous nous écriviez à Paris.
En arrivant à Rome, elle pensa aussitôt à Gerbert.
Cher monsieur et ami, je prends donc la place de Fabien pour vous dire que nous sommes sains et saufs, ce dont vous vous doutiez. J'ai admiré la route dont vous me parliez, ravissante quand elle longe la mer, plus sévère en suivant la chaîne des Apennins. Que dites-vous de ces villages, aux maisons tassées les unes sur les autres, loin des facilités qui permettraient d'en sortir ? Que pensent les populations, si toutefois elles ont des idées, qui vivent, ou plutôt végètent, dans ces agglomérations au perché ? Et pourquoi avoir bâti de pareils nids ? J'y mourrai certainement. Je plains ces gens, et peut-être ne sont-ils pas à plaindre. Je les vois inintelligents, et peut-être sont-ils très développés à leur manière. Peut-être aussi sont-ils meilleurs que tant d'hommes qui se heurtent au bas des montagnes. Sur ce point, j'ai des doutes, car les petites ou grosses passions doivent s'exaspérer dans ces vies étroites. Mais tout le long du chemin, ma plus grande pitié est allée aux animaux éthiques qui cherchent, sans la trouver, une pâture dans l'herbe brûlée. Bœufs, vaches, chevaux si maigres sont vraiment l'image de la mélancolie. En arrivant, nos aimables amis nous ont accueillis à bras ouverts. Qui reine est donc délicieuse ! Elle m'a tout de suite attirée quand je l'ai vue la première fois chez sa tante. Aujourd'hui, c'est de l'enthousiasme. Dans ce cadre romain qui convient à son esprit, elle m'intimiderait si j'avais la moindre propension à la timidité et surtout si je ne la savais remplie d'indulgence pour mes lacunes. Elle est instruite, profonde, ce me semble, et religieuse de façon surprenante. Ce n'est pas que je sois un âne. En dehors de mes petites connaissances acquises, j'ai beaucoup lu depuis mon mariage, mais je ne suis pas profonde, oh, pas du tout. Enfin, telle que je suis, je plais à Irène, elle-même, et vous savez si cette amitié est réciproque. Son mari s'entend assez bien avec Fabien. Je dis assez bien parce que l'un est un humaniste convaincu, l'autre à mon gré aime trop les additions. Cette ville me paraît enchanteresse et je commence à prendre des notes au jour le jour. Si je vous les envoie, vous ne vous moquerez pas de moi, n'est-ce pas ? Je mettrai en opposition les idées de mon ami. Si je les comprends, et jusqu'ici mon intelligence est bien obtuse. M. d'Hautefort cédait au plaisir, dangereux pour lui, de renouer une intimité qui lui rappelait des souvenirs amers et en même temps précieux. Il admettait cette contradiction. Il savait très bien que son amour pour Frédéric était existant. Il en sentait la force et l'amertume et trouvait doux de s'abandonner au courant. « Je saurai toujours le remonter, » pensait-il. Frédéric le touchait par ses doutes sur elle-même, sur ses facultés, aspect d'une nature qui avait fréquenté des milieux bien différents. Il lui répondit « Me moquer ? Je m'en garderai bien, madame et amie. Qu'est-ce que cette crainte subite chez une Parisienne qui connaît très peu la timidité ? Vous me ferez un double plaisir. D'abord, mon amitié vous suivra dans vos pérégrinations de chaque jour. Ensuite, je reverrai sous votre plume, naïve ou non, les chemins aimés de la ville unique. » Tous mes hommages, chère madame. »
Tous ces hommages, se dit Frédéric avec une rare satisfaction. J'adore la fin de ces lettres. Que nous sommes loin du ministère. Il n'est plus question de camaraderie. J'aime cet ami.